Tamani, toutes les voix du Mali.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Mercredi 25 août 2021, vous êtes à l'écoute de Studio Tamani. Bienvenue dans cette édition du soir dont voici les titres. Après plus d'une semaine de suspension, le trafic routier entre le Mali et le Sénégal a repris. Les autorités des deux pays sont parvenues à un consensus qui exige le respect des recommandations édictées par l'UEMOA et la CEDEAO. Examen du baccalauréat, les fuites de sujets ont perturbé le bon déroulement des épreuves de ce troisième jour à Bamako. Jusqu'à la mi-journée, des candidats attendaient encore pour accéder à leur salle. La menace djihadiste persiste au centre et au nord du pays. Le village de Dongoli, dans le cercle de Nyono, serait assiégé par des hommes armés non identifiés depuis une semaine. Au même moment, les attaques sur les tronçons dans le nord se multiplient. Les détails dans un instant à la présentation. Adama Amadou Haïdara. Les gouvernements du Mali et du Sénégal ont annoncé hier la reprise du trafic entre les deux pays. La décision a été prise au cours d'une rencontre à Dakar. Les échanges ont mobilisé notamment les ministres chargés du transport dans les deux pays. La circulation des camions de transport était suspendue depuis le 16 août dernier. C'était suite à l'accident tragique survenu la veille à Kaolack au Sénégal. Cet incident avait causé la mort de 4 personnes et des blessés graves. Le résumé du communiqué conjoint publié hier par les deux pays avec Khalifa Guita.
Pour accompagner la reprise du trafic entre Bamako et Dakar, les autorités du Mali et du Sénégal insistent sur le respect des dispositions réglementaires édictées par l'UEMOA et la CEDEAO. Elles estiment que ces mesures permettront de garantir une meilleure gouvernance du trafic Bamako-Dakar. La rencontre au Sénégal a mis l'accent aussi sur la nécessité de créer des conditions pour améliorer la fluidité du trafic. Le communiqué conjoint demande ainsi le respect des normes de sécurité routière et du dispositif communautaire en matière de limitation de postes de contrôle. Les deux pays ont également évoqué la construction et la mise en place des aires de repos et de stationnement sur le corridor Bamako-Dakar. Il a été demandé aux acteurs du transport de faire preuve de plus de responsabilité dans l'exercice de leurs activités et à veiller au respect du code de la route. Les ministres des Transports du Mali et du Sénégal s'engagent de leur côté à garantir la libre circulation des personnes, des biens et services entre les deux pays. La circulation des camions de transport entre les deux pays qui était suspendue depuis le 16 août dernier a eu d'énormes dégâts économiques pour les deux pays, regrettent des observateurs.
Et la nouvelle de cette reprise est beaucoup de satisfaction par le Conseil malien des transporteurs routiers. Toutefois, les responsables du collectif invitent les autorités du pays à s'impliquer davantage pour aboutir à la mise en œuvre effective des engagements pris. Ali Boukoum, vice-président du Conseil malien des transporteurs routiers, est joint au téléphone par Khalifa Goïta.
Ça a été une bonne chose. Les problèmes ont été posés. Dans le communiqué, on prend en compte une grande partie quand même des difficultés posées par les transporteurs et par les chauffeurs. Le communiqué, pour le moment, il est satisfaisant. C'est vrai que c'est un corridor difficile, tout compte tenu des tracasseries qu'il y a sur ce corridor. Et vous voyez qu'il y a eu un chapitre concernant ces tracasseries-là. Donc, il y a eu engagement qu'ils feront tout pour mettre fin à ça. Nous attendons maintenant de voir l'application de tout ce qui a été dit dans le communiqué. Vous savez, ce problème, c'est pas la première fois que ça a été posé. On a tout le temps posé ces problèmes de tracasserie. Et chaque fois, il y a eu des promesses, mais dans les faits, on voit que les promesses n'ont pas été tenues. Aujourd'hui, nous comptons encore sur nos autorités pour nous aider à ce que les promesses faites puissent se tenir.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. 18h passées de 4 minutes dans ce studio et direction à présent dans le centre d'examen où le troisième jour des épreuves écrites du baccalauréat a été entaché par des incidents à Bamako. À la rive gauche et droite, ces examens ont été perturbés dans certains centres à cause des fuites de sujets. Jusqu'à midi, les élèves attendaient encore d'accéder à leur salle. Les autorités scolaires expliquent que ce retard est dû aux nouvelles dispositions prises pour faire face à la situation. Draman Maïga a fait le tour de quelques écoles des deux rives de la capitale. On l'écoute.
Les épreuves se sont bien déroulées sans aucun incident. C'est ce qu'ont affirmé plusieurs présidents des centres d'examen à la rive gauche de Bamako. Mais tel n'est pas le cas partout. Ces élèves qui examinent de l'autre côté du fleuve disent avoir attendu toute la matinée pour entrer en salle.
On est là depuis 8h jusqu'à 11h55. On n'a pas commencé d'abord.
On n'a pas composé ce matin avec les sujets qui ont fait les fuites. On est là quand même, on est fatigué. On devrait être rentré il y a longtemps, mais bon, on est là, on attend.
On n'a rien fait toute la journée, on n'a rien fait. Franchement, c'est décourageant.
C'est le même constat à Torokorobougou et Nyamakoro. À 13h, les candidats en attente des sujets pointent du doigt la responsabilité des autorités.
Depuis 7h, on est là. Pas que le sujet a fait fuite.
Ils veulent changer le sujet, donc ils doivent annuler ceux de la rive gauche.
Bon, la fuite, ça vient pas de nous quand même. Ça vient de l'administration. C'est juste qu'ils n'ont pas fait leur travail. Sinon, les sujets n'allaient pas fuiter. Donc, moi, je préconise qu'on nous donne vite un sujet, qu'on traite et puis on va à la maison.
Le sujet qui a fait l'objet de fuite est celui des mathématiques. Le ministère de l'Éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique rassure que des dispositions ont été prises. En attendant, les candidats concernés prennent leur mal en patience.
Le cimetière de Sotiba, en commune 1 du district de Bamako, est une nouvelle fois inondé depuis quelques jours. Des restes de cadavres emportés et de nombreuses tombes sont détruites. Cette situation a suscité une très grande émotion auprès de l'opinion publique. Des associations s'y sont activées pour faire face au problème. Toutefois, la situation reste précaire. Abdoulaye Kassé est parti voir.
C'est un cimetière touffu d'herbe et envahi par les eaux de pluie. Une grande partie des tombes sont dans l'eau. La commission de gestion du cimetière explique que c'est le mur qui a cédé et l'eau passe facilement. Abdoulaye Yakuba Maïga, membre de la commission de gestion du cimetière.
Ça se passe depuis quelques années, déjà au moins 6 ans. Cette année, au début de la saison hivernale, le mur est tombé de nouveau. Ce qui a fait entrer l'eau dans le cimetière. L'eau a avancé jusqu'à aller faire tomber le mur à côté aussi. On pouvait voir les cadavres et les tombes étant sur le goudron.
Pour ce habitants de Sotiba, cette situation est due à la construction anarchique autour du cimetière et le manque d'entretien.
Il y a un pont qui quitte vers Fadjikila et passe par Djilibougou jusqu'au dépôt. C'est à partir de là-bas que l'eau est calée à cause des constructions anarchiques empêchant son passage. L'eau s'est installée et bloque au niveau des murs, ce qui lui a fait tomber.
Des personnes de bonne volonté ont tenté d'apporter une solution à ces problèmes, mais leurs efforts ont été vains. Madame Soumbounou Pendourou Diallo, membre de l'association Mama VIP.
On a été voir au commissariat du 16e arrondissement. Le commissaire nous a donné des éléments. Il y a beaucoup de problèmes par rapport au lotissement du cimetière de Sotiba. Le cimetière est très mal entré. C'est un truc qui nous dépasse.
Les responsables de la mairie de la commune 1 n'ont pas souhaité réagir sur la question.
Situation sécuritaire au nord et au centre du pays. Plusieurs sources avancent que le village de Dongoli, dans le cercle de Nyono, serait sous embargo depuis une semaine. Les groupes d'autodéfense d'Ouzo seraient en difficulté dans la zone. Au même moment, 3 camions ont été interceptés ce mardi 24 août 2021 sur l'axe Menaka-Ansongo par des présumés djihadistes. Aïssa Diarra.
Le village de Dongoli est situé dans la commune de Sribala, dans le cercle de Nyono, région de Ségou. La localité serait encerclée par des présumés djihadistes il y a plus d'une semaine. Des sources expliquent que les habitants de cette localité ne peuvent plus se rendre dans leur champ. Les enfants et les femmes manquent de nourriture. Les mêmes sources ajoutent que les Dozo sont à court des ressources pour faire cette nouvelle menace d'occupation. Au nord du pays, 3 camions qui quittaient Gao pour Menaka ont été interceptés sur l'axe Menaka en son hier 24 août 2021 par des présumés djihadistes. Deux de ces camions qui contenaient des kits destinés aux victimes des inondations à Menaka auraient disparu selon une source locale. Retour au centre du pays où les habitants de Dinangourou dans le cercle de Koro se réjouissent de la libération de la localité. Les populations vaquent à leurs occupations, mais elles s'inquiètent de l'évolution de la situation alimentaire.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Un tour dans les régions à 100, une trentaine de jeunes ont tenu ce matin une rencontre de plaidoyer. Il s'agit pour les initiateurs d'inviter les collectivités à revoir leurs politiques et stratégies de développement. Objectif, promouvoir le droit sexuel et reproductif et la lutte contre les VBG. On prit part à la rencontre les responsables des jeunes, le représentant de la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, les élus et les autorités administratives de la localité. La rencontre a été organisée par l'ONG Agir et financée par l'ambassade du Canada. 22 nouvelles latrines ont été inaugurées hier au groupe scolaire Tionville à Gao. Ces infrastructures permettront d'améliorer le cadre de vie, indiquent les bénéficiaires. C'est un fruit de la coopération Mali-UNICEF. Les latrines ont été financées par le gouvernement japonais. La cérémonie d'inauguration a enregistré la présence du directeur du centre d'animation pédagogique de Gao et d'autres acteurs. Depuis le début de la campagne agricole 2020-2021, les agriculteurs du cercle de Banamba ne cessent de se plaindre de la mauvaise gestion de l'engrais subventionné. Ils sont nombreux à déposer des demandes pour les besoins d'engrais, rapportent des sources locales. À tous les jours, la cour du secteur agricole de Banamba est prise d'assaut par les paysans ayant déposé les demandes d'engrais, témoignent les mêmes sources. Notons que cette année, le coût de l'engrais subventionné est de 11 000 francs CFA. Par contre, sur le marché local, il faut 20 000 francs pour le sac, une situation que regrette le monde paysan. Et retrouvons à présent Mariam Meiga pour le Grand Dialogue. Bonsoir Mariam.
Bonsoir Adama Haïdara.
Alors Mariam, vous allez parler de quoi aujourd'hui?
Alors Adama, nous aurons voulu parler de l'insécurité en lien avec le rapport d'Amnesty International sur les armes utilisées dans les pays du Sahel, dont le Mali, mais également des déplacés qui continuent d'arriver à Djabali et en Songo, ou encore du blocus sur la ville de Dinangourou. Mais malheureusement, nos invités nous ont fait défaut ce soir. À la place, je vous invite de réécouter en rediffusion le débat sur comment éviter un conflit entre religieux musulmans au Mali.
Merci Mariam, et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Le programme alimentaire mondial vole au secours de certaines catégories de ménages dans des zones du centre et nord du pays. Cette initiative vise à apporter un soutien alimentaire aux personnes vulnérables durant les 4 mois de période de soudure, soit de juillet à octobre 2021. L'initiative concerne les personnes déplacées internes, les personnes résidentes vulnérables ou allaitantes et les enfants de moins de 2 ans. Elmedine Ndiaye est le chargé de programme préparation et réponse aux urgences au sein du PAM. Il répond aux questions de Sekou Gadigou.
Au niveau du cadre harmonisé, c'est-à-dire le gouvernement a pu identifier environ 1,3 million de personnes qui ont besoin d'une assistance d'urgence. Et le PAM, en appui au gouvernement, compte cibler environ 600 000 personnes, dont 416 000 personnes vulnérables à la soudure. Et à côté de cela, le PAM va couvrir aussi 184 000 personnes déplacées dans les régions de Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et Menaka. Et il y aura aussi une composante nutrition pour accompagner ces efforts d'assistance alimentaire.
Quels sont les bénéficiaires de cette intervention?
La première activité, qui est une assistance alimentaire d'urgence, cible 2 types de bénéficiaires. Le premier type, ce sont les personnes résidentes vulnérables à la soudure. Et ensuite, le deuxième type, ce sont les personnes déplacées. Et ensuite, la composante nutrition cible des individus, les femmes enceintes ou mères allaitantes et les enfants de moins de 2 ans qui sont à risque de malnutrition.
Quels sont les critères du ciblage ainsi que les bénéficiaires de cette assistance?
En mars 2021, nous avons eu une grande session qui a abouti à cibler les cercles qui sont en phase crise ou pire, c'est-à-dire en phase 3 à 4. Et ensuite, nous avons des partenaires coopérants dans ces zones d'intervention qui nous appuient à identifier les villages qui sont encore les plus vulnérables dans ces communes qui ont été ciblées. Et cela se passe en étroite collaboration avec les communautés elles-mêmes. Le plus important de ce processus de ciblage est clôturé par une appropriation par les communautés elles-mêmes. C'est-à-dire ce sont les communautés elles-mêmes qui ciblent les personnes les plus vulnérables. Et nos partenaires coopérants procèdent aux distributions sur la base de ces listes qui ont été proposées, discutées et validées par les communautés elles-mêmes.
Quelles sont les modalités d'assistance?
Les 2 premiers mois, le PAM compte fournir une assistance sous forme de bons alimentaires ou, si vous voulez, des coupons contre des denrées. Donc ça, c'est les mois de juillet et août. Ensuite, il y a les 2 mois suivants, septembre et octobre, le PAM compte couvrir les besoins à travers une modalité mixte, c'est-à-dire une partie en coupons et une partie en vivres. Et ces coupons respectent la préférence et les choix des bénéficiaires dans nos zones d'intervention. La valeur des coupons varie de 18 000 francs CFA à 25 500 francs CFA pour les ménages vulnérables à la soudure. Et ensuite, ces déplacés sur base de leur vulnérabilité et sur base également des prix du marché, reçoivent des coupons dont les valeurs varient de 18 000 francs CFA à 51 000 francs CFA. À cela s'ajoute une composante nutrition qui cible les femmes. Et ces femmes, pour l'instant, à cause de certaines contraintes de ressources, ne vont être assistées que dans la région de Tombouctou.